cocktail revitalisant, plein de foi et d'espérance pour une vie épanouie et richement bénie en Christ, c'est ce à quoi le pasteur Mohamed Sanogo et l'église Vase d'Honneur vous convient. Par le biais de ce message, laissez votre esprit être nourri, encouragé et motivé par la parole de Dieu.
Je vois le roi sur son trône élevé.
Je vois le roi
briller de son éclat.
Briller de son éclat. Je vois le roi
dans sa souveraineté.
Dans sa souveraineté.
Je vois le roi régner.
Je vois le roi régner.
Encore, je vois le roi. Je vois le roi.
Je vois le roi
sur son trône.
Sur son trône élevé. Je vois le roi
briller de son éclat.
Briller de son éclat. Je vois le roi
dans sa souveraineté.
Dans sa souveraineté. Je vois le roi régner.
Je vois le roi.
Je vois le roi. Sur son trône élevé. Je vois le roi.
Prier.
Prier de son éclat.
Je vois le roi.
Je vois le roi. Dans sa souveraineté.
Je vois le roi régner.
Je vois le roi.
Et il agira.
Oh, 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 il agira.
Il agira.
Il agira.
Comme on lui semblera. Je vois son règne.
Je vois son règne. Que rien n'arrêtera.
Rien n'arrêtera.
Et son royaume. Qui exulte de joie.
Qui exulte de joie. Je vois le.
Au-dessus de tout, il règne.
Jésus est son nom, Alpha et Omega. Au-dessus de tout, il règne.
Il est éternel.
Jésus est son nom, Alpha et Omega. Au-dessus de tout. Yeah.
Alléluia.
Alléluia.
Une dernière fois. Alléluia.
Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur Tout-Puissant? Merci Jésus. Alléluia. On peut encore acclamer le roi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Salut un voisin, salut une voisine dans la présence de Dieu. Bénis-la. Du voisin, je suis ravi d'être à tes côtés pour célébrer mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Le thème de notre message, est-ce qu'on peut le dire ensemble? On va le lire à haute voix. 1, 2 et 3. Amen. Alléluia. Tu dois absolument réussir ton mariage. Le mariage est très important. Le mariage est tellement important que Jésus-Christ y a consacré, y a destiné son tout premier miracle. Le miracle de Jésus s'est passé à des noces, aux noces de Cana, et à ces noces-là, Jésus a transformé de l'eau en vin. C'est une histoire que la plupart d'entre nous connaissent, mais nous ne la connaissons pas dans son vrai sens spirituel. Tout ce que nous pouvons voir avec les yeux charnels, c'est que Jésus a transformé de l'eau en vin. Mais en étudiant ce passage depuis le début de ce programme, nous avons compris ceci, que toutes ces choses-là étaient des symboles. Alléluia. Le vin étant l'image ou la représentation physique de l'amour, le mariage représentant le couple, le vin représentant l'amour, alléluia. Et quand Jésus dit, quand par exemple Marie vient dire à Jésus, ils n'ont plus de vin, le vin est venu à manquer, il est tout simplement en train de signaler, donc spirituellement il faut entendre qu'un couple donné avait le premier vin, c'est-à-dire il s'aimait d'un premier amour, qui les a conduits peut-être au mariage, qui les a conduits à marcher ensemble. Et la Bible dit que le vin est venu à manquer. Cela donc peut s'interpréter ainsi que l'amour, l'entente, la cordialité, le sentiment amoureux qu'ils avaient l'un pour l'autre est venu par disparaître, est venu par manquer. Et lorsque cela s'est passé, Marie s'est adressée à Jésus. Jésus a dit, au départ, la réponse de Jésus semblait montrer qu'il ne s'intéressait pas à la situation. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas arrivée. Marie se retourne et dit à tous les disciples qui étaient là, il va vous dire quelque chose, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus, dont l'heure n'était pas arrivée, subitement se leva et puis il se mit à agir. Il dit donc, prenez des vases destinés à la purification, il y a fait mettre de l'eau, et cette eau-là s'est transformée en un vin de meilleure qualité. Autrement dit, le vin étant l'amour, donc s'est transformé en un amour de meilleure qualité. Là, je parle comme ça, rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi les enseignements, veuillez prendre les DVD, les CD, pour bien comprendre pourquoi ce passage est si profond et si spirituel, et qu'est-ce qu'il nous montre. Jésus a utilisé dans ce miracle-là des choses assez particulières. Les choses ne sont pas faites au hasard. Par exemple, pour créer le deuxième vin, ou le deuxième amour dans le couple, il a exigé qu'il y ait des vases particuliers. Il n'a pas utilisé des récipients qui avaient les récipients qui contenaient l'eau, qui contenaient le vin qui est venu à manquer. Il a utilisé des récipients, donc des vases, qui étaient déjà consacrés à Dieu. Alléluia. Et il en a utilisé, la Bible dit, il y avait 6 vases. 6, et je l'ai déjà enseigné il y a plusieurs années, 6 pourquoi? 6 parce que le 6e jour que Dieu a organisé le tout premier mariage. Donc si vous voulez comprendre le miracle de Cana, il faut comprendre pourquoi Jésus a pris 6 vases. Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? Il en a pris 6. Et lorsque nous nous référons à l'Ancien Testament, au livre de la Genèse, nous nous rendons compte que le 6e jour de la création, je précise que les jours de création de Dieu ne sont pas certainement nos 24 heures qui font le jour. Dieu, il a son propre timing que nous ne maîtrisons pas trop. La Bible dit d'un passage, par exemple, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc peut-être que c'est une histoire qui s'est passée en 100 ans, puis on dit le 6e jour. Vous me suivez? Ok, donc c'était sur le 6e jour. Deuxième jour, Dieu va créer les animaux, l'homme, et il va procéder
au premier mariage entre le premier homme qu'il avait créé, Adam, et la femme qu'il avait mise à ses côtés, Ève. Amen. Amen. Donc, si nous voulons connaître le bonheur conjugal, bonheur qui est très important, parce que sans ce bonheur-là, sans l'amour vrai, il nous sera très difficile d'atteindre le but de notre vie. Je rappelle que vous êtes nés pour accomplir un but. Le mariage est un moyen, est une aide que Dieu vous amène pour atteindre le but. Le mariage n'est pas une fin en soi. Il y a en vous un potentiel, un savoir-faire, quelque chose de très particulier que Dieu a déposé en vous avant même votre naissance. Parce qu'il est écrit, dans le psaume, Dieu dit ceci, « Je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. » Donc, l'homme ne commence pas à exister quand il est formé dans le ventre de sa maman. Il existe déjà avant. Dieu conçoit déjà la mentalité, l'esprit de la personne qui sera formée dans le ventre de sa mère. Et à ce moment précis-là, Dieu met en vous ce qu'on appelle votre destin, le but de votre vie, vos valeurs. Amen. Donc Dieu dépose en vous du potentiel. Ces choses-là, à votre naissance, quand vous grandissez, vous les ignorez. Consciemment, vous n'en êtes pas conscient. Mais elles sont en vous. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le but de votre vie. Vous naissez pour réaliser ces projets. Dans la parole de Dieu, le mot péché, signifie, littéralement, en prenant les textes hébreux, signifie rater le but. Dis avec moi, rater le but. Donc, celui qui pêche, c'est celui qui rate le but. C'est-à-dire, il ne fait pas une chose comme elle aurait dû être faite. Alléluia. Donc, celui qui ment, par exemple, il manque le but parce que l'homme n'a pas été créé pour mentir. Il doit dire la vérité. Donc, quand tu mens, tu n'utilises pas la langue, tu n'utilises pas la bouche, tu n'utilises pas ton cœur, tu ne t'utilises pas comme tu aurais dû être. Donc, tu manques le but. Avec donc, c'est pareil pour l'impudicité. Les rapports sexuels en dehors du mariage, donc on est empêché dans les aventures avant le mariage. Alléluia. Dans le sens qu'on manque le but. Mais manquer le but, ce n'est pas seulement commettre des iniquités. Manquer le but, c'est même faire des choses agréables aux hommes, mais qui ne sont pas dans le plan que Dieu avait prévu. Que suis-je en train de dire? Il se peut que, en vous envoyant sur la terre, avant que vous ne naissiez, Dieu avait mis en vous d'être un solutionneur aux problèmes, par exemple, des orphelins. Donc, les enfants de la rue, tu peux que, qu'avant que vous ne naissiez, Dieu ait soufflé en vous en disant, quand il dit, toi, je t'ai oint, je t'ai choisi pour que, dans ta ville, tu réduises de manière drastique le nombre d'enfants de la rue, le nombre d'orphelins. Tu te donnes ce potentiel. Amen. Ça, c'est le but de ta vie. Alléluia. Rater le but, péché, autrement dit, c'est ne pas finalement, à la fin de ta vie, atteindre cet objectif-là. Si par exemple, donc, tu es appelé à bâtir des orphelinats et que par exemple, tu vas travailler dans une grande administration avec un grand salaire, dans la meilleure société au monde, avec le meilleur salaire, pour Dieu, tu as échoué. Tu as péché. Tu n'as pas commis d'iniquité, tu n'as pas volé, tu n'as pas menti. Peut-être que tu es quelqu'un de très correct, mais tu as péché dans le sens que tu ne réalises pas la raison d'être, ta raison d'être, la raison de ton existence. Amen. Viens avec moi, ma destinée. Alléluia. Maintenant, cette raison d'être, le but de ta vie, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas à ton esprit de manière consciente. C'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure. Amen, amen, amen. Amen. Et Dieu, pour te permettre de déguiser, de faire ressortir ton vrai potentiel, va te permettre à ce que tu sois confronté, cette fois-ci, aux hommes. Donc, ce sont les relations humaines qui vont t'aiguiser. Et la meilleure relation humaine qui t'améliore et qui t'aide à réaliser ton destin, c'est le mariage. Proverbe chapitre 27, verset 17 dit, Proverbe 27, 17 dit, « De même que le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. » Alléluia. Je vous ai déjà donné cette illustration. Vous avez une machette qui sort de l'usine. La machette a son destin en elle, n'est-ce pas? Le but, son but, c'est de pouvoir enlever les mauvaises herbes dans la plantation, dans le champ. Elle existe pour ça. C'est la machette, ce n'est pas un couteau de cuisine. Si quelqu'un utilise une machette en couteau de cuisine, on va dire, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu vas blesser tout le monde. Oui, en train de couper la viande dans sa petite cuisine avec une grosse machette, on va dire, il y a un problème. Ok? Donc la machette n'est pas pour la cuisine. Ça, c'est la machette. Mais quand on te la livre à l'origine, elle n'est pas aiguisée, elle n'est pas tranchante. Donc parce qu'elle n'est pas tranchante, elle ne peut pas réaliser ce pourquoi elle a été fabriquée. N'est-ce pas? Pour que la machette devienne tranchante et permette de couper les mauvaises herbes, il faut que la machette rencontre un autre fer, la lime, pour l'aiguiser. C'est ce que Dieu dit. De même que le fer aiguise le fer, c'est l'homme qui aiguise l'homme. C'est-à-dire, quand tu nais, ton potentiel est en toi. C'est ta rencontre avec quelqu'un, avec certaines personnes, les relations humaines, qui vont permettre de faire ressortir de manière progressive pourquoi tu es né. Alléluia. Alléluia. Le potentiel est en toi, mais on doit t'aiguiser, on doit te tailler. Mais lorsque le fer vient rencontrer le fer, ça se fait de manière douloureuse. Imaginez, vous voyez la lime contre le fer. La machette doit pleurer. Elle dit, mais pourquoi tu m'enlèves des morceaux de fer? Si la machette avait une langue, elle allait vouloir se battre avec la lime. Tu me vois comme ça, est-ce que tu sais d'où je viens? Je viens de telle usine. Voilà comment on va fabriquer. Et tu viens comme ça. Et puis, il y a une confrontation. Tiens. Et au fur et à mesure de cette confrontation-là, la machette commence à briller et à manifester ce pourquoi on l'a fait. Le mariage est quelque chose qui vous aiguise et qui vous rend efficace. Le mariage va vous permettre de mieux ressortir le destin de votre existence. Hein? Le mariage va vous permettre de mieux sentir. Donc, vous êtes marié, vous travaillez par exemple dans une entreprise. Oh, vous êtes celui qui devait faire l'orphelinat. Vous allez voir que, au fur et à mesure, si votre mariage réussit et que tout se passe bien avec l'amour divin dont je parlais tantôt, au fur et à mesure, votre épouse et vous-même, ou bien votre conjoint et vous, allez commencer à sentir que c'est vrai que je suis directeur général de cette entreprise. Mais chérie, je sens qu'on doit bâtir quelque chose d'autre. Vous allez le sentir, ça va venir s'imposer à vous à un moment donné. Ça sera tellement fort que quel que soit le salaire qu'on vous donne, vous ne serez pas satisfait. Quelles que soient les opportunités professionnelles, vous allez dire non, je ne suis pas heureux. Alléluia. Vous ne pouvez pas être épanoui si vous n'êtes pas en train de réaliser ce pourquoi vous êtes né. Ce n'est pas le mariage qui rend heureux. Le mariage permet d'atteindre ce but. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dimanche dernier, on a parlé, on a dit longuement, pour ce faire, il y a le processus suivant, chapitre 2, verset 18. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, le sixième jour, voilà ce qui s'est passé. Sixième jour à cause des six vases. Amen. Verset 18 de Genèse 2. Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, là, Dieu amène la première fois cette phrase. Ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il doit se marier. Dieu évoque donc le sujet du mariage et juste avant d'envoyer sa femme, vous lisez du verset 19 jusqu'au verset 20, 21 par là, Dieu va envoyer des animaux pour qu'Adam leur donne des noms. Et à un moment donné, au verset 20, Adam va sortir cette phrase. Il va dire, parmi les animaux, il n'y a aucun qui soit mon vis-à-vis, qui soit mon semblable. Dans la version biblique de Jérusalem, il est dit, il n'y a aucun qui me soit assorti. Et je l'ai expliqué longuement. Avant de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie, avec qui vous allez pouvoir pleinement atteindre votre destin, vous allez être confronté à la rencontre de plusieurs hommes ou femmes. Pas parce que vous allez avoir des relations avec eux particulièrement, mais vous devez vous aiguiser. Et les animaux, on l'a expliqué, ce n'est pas, il ne s'agit pas de voir un singe pour dire tu es un singe. Dans le cadre du mariage, c'est juste la façon dont vous gérez votre relationnel, votre relation avec les autres. Ceux qui n'ont pas suivi cet épisode, cet enseignement, vraiment prenez les coffrets. Il ne faut pas manquer cette partie. Amen. Sans quoi, vous ne pouvez pas bien saisir la suite du message. L'autre message du jour, c'est quoi? Quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous avez remarqué la solution qu'il a apportée. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. La clé du succès du mariage, c'est là. Tout se trouve là. Dis un moment, tout est là. Tout est là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. C'est tout. Tout est là. Donc, Dieu, pour répondre aux besoins du mariage, choisis quelqu'un qui te ressemble. Amen. Alléluia. Vous avez des similitudes. Dans la version de Jérusalem, il est dit, je lui ferai quelqu'un qui lui soit assorti, avec qui ils vont. Ils sont compatibles. Amen. Dimanche dernier, nous avons dit ceci, les mauvais mariages, les mauvaises rencontres, les personnes avec qui on peut se rencontrer, de qui on a envie de se séparer demain, on se bagarre, on ne s'entend pas du tout, viennent d'une erreur de choix à l'origine. Quelle est cette erreur? Pour une raison ou pour une autre, vous avez attiré vers vous une personne semblable, mais pas semblable à vos aspirations profondes. Cette personne vous est assortie à un moment donné de votre vie. Alléluia. Vous êtes assortie à un moment donné de votre vie. Si vous êtes quelqu'un de compliqué, à cause des frustrations que le monde vous a fait connaître, vous allez attirer vers vous quelqu'un aussi de bizarre. C'est comme ça, ça marche. Amen. Donc, si je veux réussir le choix efficace de mon conjoint, il faut que moi-même, je sois guéri de bizarrerie. Alléluia. Amen. J'attire mon semblable. Et vous allez voir, cette attirance-là n'est pas physique. Quand Dieu parle d'un être semblable, il n'est pas en train de dire, vous avez le même nez, vous avez les mêmes yeux. Il ne s'agit pas d'aller sur Internet, de mettre ta photo et puis de dire, chercher quelqu'un qui me ressemble. Lorsqu'on voit, on a l'impression que nous sommes frères et sœurs. Il ne s'agit pas de cela. Laisse les visages des gens tranquilles. Alléluia. Voilà. Puis on a la même teinte, on a la même forme. Ça, c'est sans futilité. La ressemblance dont le Seigneur parle est la ressemblance spirituelle. C'est l'esprit. Une personne vous ressemble par rapport à vos valeurs, à vos, aux choses que vous considérez, etc. C'est ça la ressemblance. Et c'est ça l'enjeu du mariage. Donc, inconsciemment, vous attirez vers vous quelqu'un qui vient répondre à un de vos besoins pendant une période donnée. Mais il se peut que ce besoin-là ne soit pas définitif. Et à un moment donné, ce qui vous apporte là, ça ne vous aide plus. Donc, vous n'allez plus vouloir cette personne. Ça, ce n'est pas normal. Alléluia. Pour que vous n'attiriez pas la mauvaise personne semblable, vous avez besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. C'est ce que j'ai appelé le seul à seul. Quelqu'un avec moi? Amen. Ça, c'est nécessaire. Dans le seul à seul, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va restaurer votre vrai visage. Le visage qu'il vous avait donné avant que vous ne soyez formé dans le ventre de votre maman. Ce visage-là, vous l'avez perdu dans l'éducation, dans la formation, dans les frustrations. Vous qui êtes une personne censée être douce ou compatissante, vous êtes devenu quelqu'un de dur et d'impitoyable parce que les gens vous ont fait souffrir. Donc, vous présentez un visage dur pendant que, avant que vous ne naissiez, Dieu vous avait rendu douce et doux. Mais les douleurs vous ont endurci. La dureté n'est pas votre vrai visage. C'est un visage déformé. Donc, dans le seul à seul, Dieu va corriger ces choses-là et vous donner votre vrai visage afin que vous attiriez la personne qui vous est assortie. Si vous êtes déjà marié, il ne faut pas divorcer. Vous restez là, vous faites le seul à seul avec Dieu et Dieu va changer votre conjoint. Parce que la ressemblance n'est pas physique. Dieu peut changer l'esprit de l'autre pour qu'il devienne exactement la personne qui vous est assortie. C'est un esprit. Vous ne pouvez pas regarder le monsieur pour dire celui-là, il ne peut pas changer. Jamais. Là, c'est entre les mains de Dieu. Donc, quand on est marié, on ne divorce pas. Lorsqu'on n'est pas marié, pour éviter d'avoir à payer le prix étant marié, on prend le bon visage avant le mariage. Avant même de rencontrer le fiancé, c'est la meilleure des choses à faire. Amen. Amen, amen, amen. Seul à seul avec Dieu se passe en 5 étapes. Il faut 5 choses, 5 éléments pour que vous soyez guéri, restauré et que vous commenciez à voir le visage divin s'imprimer entre vous. Mes amis, je vous dis la vérité. Depuis qu'on a commencé à dire ces choses, Dieu est en train d'agir puissamment dans l'église. Surtout avec les 12 jours de jeûne. On reçoit des témoignages comme pas possible. Une femme dont le mari avait abandonné depuis plus d'une année. Dans la période là. Parce qu'elle-même, elle a compris qu'elle devait traiter son seul à seul avec Dieu. Elle est restée avec le Seigneur. Un mari qui abandonne sa femme, il est déjà en tort. Mais elle savait dans son cœur qu'elle ne veut pas aller ailleurs. Que c'était son homme. Tout ce qu'elle avait à traiter, c'était ce que j'ai dit. Reste seul avec Dieu. Et Dieu a commencé à la guérir elle-même, à la restaurer. Et quelque temps avant, pendant le jeûne là, elle est dans sa voiture, elle reçoit le SMS du retour en force. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a écrit hier encore, elle dit, chaque fois m'écrit pour dire, mon mari c'est compliqué, il me parle mal, il est comme ceci, il est comme cela, je n'en peux plus, je veux le laisser, je peux partir. Donc, avant d'entrer dans le séminaire sur le mariage, cette dame-là avait décidé, elle voulait m'écrire pour dire, parce que je n'en peux plus. Là, je vais divorcer, c'est bon comme ça, sinon je vais mourir. Elle dit, bon, mais avant d'entamer les procédures, je vais finir le séminaire sur le mariage. Et au fur et à mesure, elle a compris que, bon, laisse ton mari tranquille et toi fais le seul à seul avec Dieu. Elle a obéi. Mais je n'ai même pas encore fini les 5 points du seul à seul. Avant la fin du jeûne, donc, hier, elle m'envoie un mail. Elle dit, mais pasteur, je rentre à la maison. La première fois, mon mari vient m'accueillir lui-même. C'est lui qui m'ouvre la porte. Mon amour. Il dit à sa femme, il dit, ce monsieur, il ne veut pas à l'église. Hein. Il n'a pas entendu le message. Elle vient seule. C'est à elle seule que Dieu parlait. Lui, il n'entendait pas. Et chaque jour qu'elle entend la parole, elle est en train d'être transformée. Et quand elle rentre à la maison, elle découvre que lui aussi, il était transformé. C'est ce que je vous ai dit. Vous êtes une seule chair une fois que vous êtes marié. Votre transformation influence la transformation de votre conjoint. Vous n'avez pas besoin de lui faire des gros palabres. Vous avez besoin de vous traiter vous-même. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et devenir une seule chair. Il y a un lien. Quand j'aborderai les sujets sur les maris, vous allez voir, c'est trop puissant ce lien. Vous allez voir que vous ne pouvez pas vous laisser malmener par des étrangères. Quand on dit étrangère, vous voyez, non? Non, le lien là est dangereux. Tu ramènes ton mari rapidement. Alléluia. Ça marche. Mais tu ramènes ta femme. Darda. Il y a des déclarations là. Tu parles, il ne va pas partir quelque part. Vous êtes un. Amen. Donc elle a juste appliqué cela. Et il vient, et puis il dit à sa femme, il dit, tu vois, tu es ma maman, oh, je suis ton fils. Et puis il a pris, elle dit, maintenant, mais l'attention, elle dit, pasteur, le début du second vin vient de commencer. Amen, amen. Dieu est bon. Alléluia. Alors faites ce que le Seigneur vous dit, et vous allez voir sa gloire. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Prends un temps avec lui. Oublie les hommes. Oublie qui est mariable dans l'église. Oublie qui tu vas chercher. Arrête d'aller sur Internet pour mettre ta photo. Reste calme. Reste calme. Il y a un autre Internet où Dieu placera la bonne image. Alléluia. Et la bonne personne verra et la bonne personne viendra. Vous savez, Dieu a une connexion. Même si la personne qui t'est assortie est à l'autre bout du monde, quand Dieu a fini de traiter l'épisode du seul à seul, la personne court te retrouver. Si tu es déjà marié, que tu rachètes le temps du seul à seul, pendant que tu es en train de transformer, Dieu transforme aussi l'autre. Amen. Parce que c'est l'esprit qui change et non l'apparence. Alléluia. Et quand tu es même encore loin d'être fiancé et que tu travailles le seul à seul, Dieu simultanément prépare la personne. Si tu commences à faire le seul à seul, que celui qui t'est vraiment assorti n'est pas encore en Christ, s'il se trouve dans un autre pays, Dieu va l'amener à le connaître. Pendant que tu es en train de changer, il y a comme une connexion. Il y a une connexion. Il n'y a pas comme, c'est une connexion même. Il y a une connexion divine qui amène le monsieur qui n'était pas converti à la conversion. Donc, ne t'inquiète pas de savoir où il est, dans quel pays tu vas partir. Tout ça. Tu dis de marier un animal, je t'assure. Si tu ne fais pas attention, tu vas passer par une mauvaise nomination dans la forêt. Tu peux tomber sur quelqu'un de bien comme quelqu'un d'hyper dangereux. Donc reste calme. Touche quelqu'un dit reste calme. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire? Seul à seul. Première étape du seul à seul. Je ne reviens pas là-dessus. C'est quoi la première étape du seul à seul? Bon, le seul à seul est basé sur quoi? Je dois retrouver l'image de Dieu. Si je ressemble à Dieu, si j'ai mon vrai visage, je vais attirer mon conjoint. Et ce texte est basé sur 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 que vous avez à l'écran. Amen. 2 Corinthiens 3, 18. Il est dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes comment? À la même image, de gloire en gloire comme? Donc, le seul à seul, voilà ce qu'il produit. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Je veux attirer quelqu'un qui me ressemble. mais qui ressemble à l'image que Dieu a voulu que j'aie, pas à l'image que la société m'a donnée. Pour que j'attire ma ressemblance, mon image vraie, il faut que moi-même je retrouve ma vraie image. Et quelle est cette image-là? C'est celle que Dieu a dit au début. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Genèse chapitre 1 dit, Dieu a créé l'homme à son image. Maintenant, c'est quoi l'image? Ça va vous permettre de mieux comprendre ce que je vais dire dans le seul à seul. C'est quoi l'image de Dieu? Dieu est un esprit. Il n'a pas d'oreille, il n'a pas de nez comme nous. Il est un esprit. Ressembler à Dieu ou à un esprit, c'est ressembler, c'est une similitude, une ressemblance en ce qui concerne les valeurs. Dieu est plein de compassion. Quelqu'un qui ressemble à Dieu va avoir la compassion de Dieu. Alléluia. Dieu est juste. Donc, quelqu'un qui ressemble à Dieu commence à vivre ou appliquer la justice divine. Vous me suivez? Donc, ressembler à un esprit, c'est ressembler à des valeurs. Il y a d'autres caractéristiques que je citerai plus tard. Lorsqu'on dit que Dieu a créé Adam à son image, à sa ressemblance, ce n'est pas qu'Adam avait les yeux de Dieu. Pas les yeux physiques en tout cas, mais les yeux spirituels. Ça veut dire le cœur de Dieu, la manière dont Dieu pense. Parce qu'en réalité, dans le mariage, c'est ce qui perdure. On oublie la beauté après. On oublie l'apparence physique à un moment donné. Et ce sont les valeurs de la personne qui vous maintiennent dans un couple ou qui détruisent le couple. S'il est méchant, il fait des trucs, il est jaloux, possessif, c'est ce qui va vous détruire. Même si c'est la plus belle dame de la terre. Il y a une soeur, elle est venue me voir, je lui ai donné un conseil. Je dis, elle voulait nommer quelqu'un. Je dis, lui là, je pense qu'il n'est pas prêt, il faut le sauter. Elle dit, ah, parce qu'elle ne m'a pas écouté. Après, elle dit, lui, c'est un animal hybride. Comme j'ai dit, on marie les animaux. Là. Elle dit non, lui, il est lion et gorille en même temps combiné. Parce qu'il a voulu la boxer. Je dis, oh. Elle dit, lui, il regroupe tout. OK? Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, donc ressembler, ce n'est pas. Ce sont des valeurs. Dieu, pour votre destin, par exemple, je vais garder le destin de celui qui doit faire un orphelinat. Pour que vous fassiez cela, il a besoin que vous ayez de la compassion. De la compassion. Mais le monde, parce que naturellement vous avez de la compassion, le monde a fait en sorte que peut-être vous êtes devenu quelqu'un de dur. Vous avez aidé des gens, mais ils se sont retenus contre vous. Vous avez essayé de sauver certaines personnes de situation, mais ils se sont rebellés contre vous. Donc à un moment donné, vous avez fermé votre main, vous êtes devenu dur. Okay? Donc vous présentez un visage, le visage d'une personne dure. Et vous allez attirer vers vous un semblable, un dur. Donc il vous sera difficile, deux durs qui se rencontrent, d'atteindre leur destin. Vous me suivez? Dieu est compassion. Et toi, tu as de la compassion et ton mari doit être assorti. De sorte que ton cœur de compassion, il le saisisse. Et quand votre destin va se manifester, que chérie, on doit aider les enfants démunis, vous soyez ensemble et vous le fassiez d'un même cœur. Alléluia. Même si c'est l'homme le plus beau de la terre, que tu t'es trompé pour le mari à cause de son visage et de son argent, tu vas regretter. Parce que tu n'es pas épanoui, tu n'es pas en train de réaliser ce pourquoi tu es né. Toi, tu dis que tu as envie d'aller évangéliser. Quand tu vois les enfants, tu as envie de les recevoir, tu as envie de payer, de construire une maison pour eux. Lui, il dit seulement, il faut qu'on achète les voitures. Vous n'avez pas les mêmes passions. Alléluia. Vous n'avez pas. Donc, à un moment donné, que vous soyez apprécié pour voir ton argent ou pas, mais vous allez vous disputer. Vous allez vous séparer. Ça ne peut pas aller. Or, vous l'avez attiré parce qu'à un moment donné, vous avez certains problèmes. Et vous avez des besoins financiers. Lui, il répondait à ce besoin. Vous l'avez posé. À un moment donné, vous vous rendez compte que, OK, l'argent, on a résolu l'argent. Mais maintenant, moi, j'ai envie de faire mes orphelinats. Lui dit, mais pourquoi? Laisse, tu n'es pas mère Teresa. On a une mère Teresa ici, toi tu es mère Teresa. On va faire les affaires, l'argent. Et tu seras malheureuse parce que tu n'es pas épanouie de réaliser ton but. Donc, il ne fallait pas attirer ce monsieur au départ. Quand tu regardes Dieu face à face, il va te redonner la compassion. Il va te donner ses valeurs. C'est ça, ressembler à Dieu. Alléluia. Il va guérir ton cœur et remettre dans ton cœur les vraies valeurs. Le monde a d'autres valeurs. Par exemple, dans le monde, il y a la pitié. La pitié n'est pas de Dieu. Dieu n'a pas pitié des gens. Dieu a compassion. C'est pas pareil. Vous me suivez? Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. C'est pas pareil. La pitié est une valeur toute humaine. La gentillesse. La gentillesse, il y en a qui comprennent pas. Ah, parce que ça veut dire quoi? Dieu doit être gentil. Non, non. La gentillesse, c'est le fait de faire plaisir aux gens ou de répondre à leurs besoins immédiats. Un enfant pleure, il doit aller au lit, ton bébé, et puis à 7 heures-là, lui, il veut un bonbon très sucré et il n'aime pas en plus se brosser les dents. Tu dis, maman, je veux mon bonbon, je veux le bonbon. Tellement il pleure, tu veux, maman gentille, tiens, tu vas te brosser. Je ne me brosse pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Il fait une crise. Va te coucher. Ça, c'est de la gentillesse. Ce n'est pas de la bonté. La bonté peut être ferme. La bonté, c'est dire non. Parce que la bonté ne regarde pas le plaisir immédiat de l'autre. La bonté regarde son bien. La gentillesse, c'est une manière d'éviter que la personne pleure. La bonté peut dire non. La gentillesse, ce n'est pas dire non. Amen. Dieu est bon. Dieu, tu pleures dans tes problèmes, puis Dieu te regarde et dit, bientôt, je vais te délivrer. La gentillesse aurait intervenu très promptement. Si Dieu était gentil, mais est-ce qu'on allait... Dieu, donne-moi ça. Papa gentil. Dieu, donne-moi 10 millions. Tiens, tiens. Ah, c'est la gentillesse. Dieu dit, est-ce que tu sais comment on gère 10 millions? Comment tu vas travailler? Dieu va te former pour que tu atteignes. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Donc, le monde peut vous rendre gentil. La présence de Dieu, la seule, va recréer en vous la compassion. Va créer en vous la bonté au lieu de la gentillesse. La vraie bonté. Amen. Amen, amen. Pour trouver donc cela, cette image qui est votre vrai cœur, première chose, vous devez adorer Dieu, contempler le Seigneur selon 2 Corinthiens 3, 18. Quand je contemple Dieu, je finis par lui ressembler. Donc mon but, c'est la contemplation de Dieu. Je vais dire ce que ça signifie tout à l'heure. Mais où je dois le contempler? C'était la première clé du seul à seul. Où je dois le rencontrer? Dans le lieu secret. 1. 2. Quand je le rencontre, je dois le rencontrer le visage découvert. C'est ce qu'on a traité dimanche dernier. Que quand tu rentres dans le seul à seul, dans le lieu secret avec Dieu, tu ne dois pas avoir des mauvais trésors. Je vous en supplie dans le nom de Jésus, si vous n'étiez pas là dimanche dernier, prenez l'enseignement sur les mauvais trésors. J'ai donné ce message-là, dans la maîtrise, sur le thème de la maîtrise de soi, et puis sur le thème de l'amour. Les mauvais trésors peuvent vous donner un mauvais caractère, ou le caractère que vous n'avez pas. Donc vraiment, il faut le prendre, il faut écouter l'enseignement du dimanche dernier. Donc, vous rentrez dans le lieu secret. Donc, nous tous qui contemplons le Seigneur, le visage découvert, un visage découvert, c'est sans secret. C'est là qu'on traite avec les mauvais trésors. Et puis, le verset dit quoi encore? Nous tous qui le visage découvert contemplons comme quoi? Comme dans un miroir. Dis avec moi le miroir. Le miroir. La troisième chose que vous devez faire dans votre moment d'intimité avec le Seigneur, dans votre moment seul avec Dieu, même si vous êtes marié, vous n'êtes pas marié, ce que vous devez faire après être entré dans le lieu secret, après avoir vous être débarrassé des mauvais trésors, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le miroir. Dis avec moi le miroir. Vous devez vous tenir devant le miroir divin. Pour ressembler à Dieu, nous devons le contempler, visage découvert, comme dans un miroir. Miroir, dis avec moi miroir.
Miroir.
Encore.
Miroir.
C'est quoi un miroir? À quoi il sert un miroir? À faire quoi? Ah, ma soeur. Il y a quelqu'un qui a crié là-bas, à quoi sert le miroir? À se mirer. Ok. Le miroir et les professionnels du miroir, ce sont nos sœurs en seconde position. Les hommes. Bon, il y a des hommes qui ont un miroir. Hein. Regarde, le matin, ils se disputent avec leurs femmes devant le miroir. Quand ils vont au travail, ah, pousse un peu. Ok. En fait, le miroir est très important dans le lieu secret. Dans le lieu secret, vous. Donc, dans vos moments de prière, dans vos moments d'intimité avec Dieu, pour que Dieu vous transforme et vous redonne vos vraies valeurs, vous devez à un moment donné être confronté à un miroir. Le miroir est un objet qui permet de nous voir de la façon dont les autres nous voient. Vous me suivez? C'est-à-dire, il nous permet d'avoir un regard un peu extérieur. Je m'habille le matin, je mets mon maquillage. Il se peut que si je n'ai pas de miroir, en pensant que j'ai bien fait le tour de mes lèvres, que le crayon soit venu par ici. Mais moi, je ne veux pas le voir si je ne suis pas confronté au miroir. Et puis, je peux sortir dans la rue, tout sourire pour dire non, oh Dieu, je suis trop belle. La façon dont j'ai mis mon rouge à lèvres, non. Oh, il y a un gros trait qui est venu par ici. Balaf. Puis tu es là. Et tu marches dans la ville, tout le monde est là. Oh. Sans le miroir, des fois tu as fini de manger comme ça, il y a un morceau qui reste au milieu des dents là. Tu ris, tu ne sais même pas. Et on voit des choses sur tes dents. Et les gens sont là, ils sont gênés. Donc s'ils ont peur de toi parce que peut-être tu es le DG, on ne sait pas te faire de remarques, donc quelqu'un est là de loin. Toi tu ne sais pas, tu parles, vous savez les gars. Ah, on voit quelque chose. Donc en fait, avant d'aller rencontrer les autres, tu as besoin du miroir pour qu'ils te disent comment tu es. Il y a ce que toi tu crois que tu es, et il y a l'image qui est véhiculée. Je peux décider de bien me vêtir, mais je serai quand même mal vêtu. Donc, ma décision en ce qui me concerne n'est pas suffisante pour savoir, n'est pas encore l'image que je vais projeter. L'image que je vais projeter, je ne peux l'avoir qu'au travers d'un miroir. Tiens avec moi, miroir. Miroir. Donc, lorsque je rentre dans le seul à seul, dans le temps avec Dieu, je dois demander à Dieu. Il y a une question systématique. Et il faut avoir l'humilité de le faire. Parce que beaucoup de gens ont peur de se voir tels qu'ils sont. Maintenant, ici, il ne s'agit pas de mirer le visage. Il s'agit d'avoir un miroir de votre esprit, de votre cœur, de votre mentalité, de votre personnalité, de la manière dont vous jugez les choses. Ce n'est pas un miroir qui va te dire si ton rouge à lèvres est mal placé ou bien placé. Ce n'est pas un miroir qui va te dire si ta cravate est bien placée ou mal placée. C'est un miroir qui va dire ce qui est en toi. Ce qui se passe maintenant, dans ton cœur, dans tes pensées, ta mentalité, ta manière de voir. Si vous n'êtes pas confronté à ce miroir, 2 Corinthiens 3, 18 dit, vous ne pouvez pas être transformé en l'image de Christ. Parce que pour être transformé en l'image, en votre vraie image, il faut être dans le secret, il faut découvrir le visage et il faut se tenir devant le miroir. Alléluia. Alléluia. Vous devez voir l'image que vous véhiculez. Et cette image-là de l'esprit est très importante. Parce que c'est en vérité votre visage spirituel qui attire les gens vers vous, qui les éloigne. C'est votre visage spirituel qui détermine l'attitude de votre conjoint. Quand je dis tu vas attirer l'être semblable, en fait, semblable à quoi? Si ce n'est pas le nez, si ce n'est pas le corps, le visage physique, c'est le visage spirituel. Donc, les esprits des hommes se rencontrent quelque part. Et lorsqu'on rencontre une personne, elle dégage quelque chose. Je pense que vous voyez. Il y a des personnes, vous les voyez, vous les rencontrez, ils dégagent une suffisance. La personne même peut saluer humblement, mais sa manière de faire, tu sens qu'il y a une autre voix qui parle, qui est inaudible, qui traduit, non, ce gars-là, il se prend trop au sérieux. Qui dit, non, je suis un gars. Mais quand tu le vois, tu sens qu'il s'aime trop, quoi. Mais lui-même, il peut dire, hey, grand frère, tout ça. Ses mots sont très polis, mais ce qu'il respire semble être hautain. Vous voyez de quoi je parle? Ok? Maintenant, lui, lorsqu'il prie, il peut demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être hautain. Seigneur, rends-moi humble. Ça, c'est le travail qu'il fait sur lui-même. Parce qu'il prie le Seigneur, Dieu dit, arrange ta vie comme ça, mets ta cravate comme ça, ok? Mais il a besoin, à un moment donné, d'aller maintenant devant le miroir pour s'assurer qu'il dégage l'humilité. Parce qu'il peut rechercher l'humilité, mais inconsciemment dégager la suffisance et l'orgueil. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Alléluia! Le miroir vous montre ce que vous dégagez. Pour toucher exactement le cas du mariage, si vous remarquez bien, vous allez voir que il y a plusieurs raisons pour lesquelles, par exemple, une femme attire. Il y a des personnes, involontairement, elles présentent un visage qui donne aux gens qui la regardent le désir d'aller avec elle, sans l'épouser. Elle peut être là, mais tout ce que les gens ont, c'est, entre guillemets, de vouloir la voir juste, comment dire, dans leur chambre. C'est pour du plaisir. Elle-même, dans son être, elle a envie de se marier. Mais tous ceux qui viennent, c'est jamais pour faire quelque chose de sérieux. C'est que, inconsciemment, elle produit un autre visage.
elle a besoin du miroir. Il y a d'autres personnes qui, par exemple, certaines femmes qui vont se faire très belles. Quand vous les voyez, vous ne comprenez même pas pourquoi personne ne veut les épouser. Mais aucune personne leur fait des avances. Elle ne sait pas pourquoi. Elle dit, parce que j'ai fait tout. Parce qu'elle dit, il faut savoir faire la cuisine, j'ai racheté, tout ça, je les ai fait. On dit, il faut la foi, il faut vivre comme si tu étais avant. Tout ça, là, c'est prêt, elle est préparée. Mais il y a une image, il y a quelque chose que les autres voient. Ils ne le voient pas physiquement. Là, tout à l'heure, j'ai parlé de ceux dont on voit la suffisance. Ça, c'est presque apparent. Mais il y a une autre image qui est beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus sournoise, beaucoup plus invisible, mais que les hommes perçoivent inconsciemment, qui les repoussent ou qui les attire. Et vice-versa, c'est vrai aussi pour les hommes. Quelqu'un me suit? Alléluia. 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 Une femme, qui aspire à se marier, par exemple, et puis qui a été déformée, elle a pris un autre visage. L'éducation de son papa, peut-être papa était militaire, il a formé comme un garçon. Quand tu vois là, toujours les bottes de militaire là, tu vois, elle marche comme ça. Et puis elle peut être douce, mais inconsciemment, quand les frères la voient, ils ont l'impression qu'à la maison, ça sera chaud. Il y a la guerre. Elle a été déformée. Quelqu'un me suit? Elle a été déformée. Elle n'a plus son vrai visage. Par exemple, les dames qui aspirent à avoir une position professionnelle élevée, ce sont des personnes qui sont souvent amenées à faire beaucoup de sacrifices dans leur relation avec les autres. Parce que quelquefois, au milieu des hommes, c'est très compliqué. Il n'accepte pas la femme. Alors vous allez voir une personne que Dieu avait créée initialement avec un cœur de compassion, avec un cœur doux. Et c'est ce visage-là qu'elle aurait dû présenter pour attirer son homme. Mais elle, parce qu'elle a envie d'être directrice, elle va s'endurcir. Elle va commencer à répondre durement. Elle va se fermer parce que dans le monde professionnel, on n'a pas pitié. On n'a pas de compassion pour les femmes. Elle va se rendre dure, elle va. Alors, elle dirige la boîte de main de fer. Et tout le monde est là, puis tout le monde a peur de la patronne. Mais la patronne, c'est un ange, c'est une femme extraordinaire. Mais elle a fini à force de travailler son être intérieur pour pouvoir tenir au milieu des coups bas et des collègues et des trucs bizarres. Elle présente un autre visage. Et le visage qu'elle peut présenter, par exemple, c'est un visage de suffisance, je n'ai besoin de personne. Alors inconsciemment, quand les hommes la regardent, ils voient, voilà, j'ai même pas besoin de me marier. C'est ce qu'ils voient. Ils voient que la dame dit, non, elle va se marier pourquoi? Elle a tout, elle a l'argent, elle a sa voiture. Donc le monsieur même, à qui Dieu dit, ça peut être ta femme, il dit, qu'est-ce que je peux lui apporter? Mais la personne ne dit pas ça consciemment, elle le dit inconsciemment. Deux, ces genres de personnes, ce n'est pas mauvais, mais elles finissent par... Vous savez, une chose qui est importante pour l'homme, c'est que c'est la notion d'amour, de soumission. Je rappelle, je vais traiter ça. La soumission et l'obéissance, ce n'est pas pareil. J'ai déjà abordé. Donc, quand je dis soumission, les frères, comprenez bien, n'allez pas maltraiter vos femmes. Ça n'a rien à voir la définition que vous donnez à la soumission. La soumission dans la Bible est différente de l'asservissement. Faites très attention, ce n'est pas pareil. La soumission, c'est le mot soutenir la mission, sous la mission. Amen. Alléluia. Donc, un monsieur qui comprend mal ce que c'est que la soumission, par exemple, et qui souhaite avoir une femme soumise, lorsque la dame dégage une image de directrice générale, il a l'impression qu'elle va conduire la maison. Son subconscient va la rejeter. Le visage qu'elle présente, c'est « je dirige ». On ne me dirige pas. Donc, le monsieur qui a envie d'être chef de famille, quand il te voit, il voit qu'il sera sous-chef de la famille. Donc, s'il sent qu'il sera sous-chef, il ne va pas te marier. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans le lieu secret, vous devez traiter avec votre image. Vous devez avoir l'humilité de vous tenir devant Dieu et dire, Dieu, comment est-ce que tu me vois? Il faut le faire. C'est l'étape qui va vous permettre maintenant de présenter le vrai visage. Qu'est-ce que tu vois?
Et le miroir dans le livre de Jacques, chapitre 1, c'est la parole. La Bible dit que la parole est un miroir, la parole de Dieu. Et vous devez vous regarder. Et tu vas te dire, Et dis, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi quand on te parle de cette façon, tu te mets toujours en colère? Et non, parce que c'est comme ça, je vois le monde, c'est comme ça. Je n'aime pas qu'on me fasse ceci. Il dit, pourquoi tu te mets en colère? Il dit, c'est une maladie. Comment ça? Il dit, tu réagis comme ça parce que quand tu avais 7 ans, voilà ce qu'on t'a fait. Depuis lors, tu présentes ce visage-là. Tu as toujours réponse à tout. Ah, et ça, ça fait fuir ton homme. Ah bon? Ok, corrige. Ça, c'est le travail du miroir. Quelqu'un avec moi? Il arrive à l'homme, il dit, fais attention, tu vas peut-être te marier, mais ton couple aura des problèmes. Pourquoi? Regarde-toi dans le miroir. Tu n'acceptes jamais les réprimandes. Quand ta femme te dit, tu n'acceptes pas les réprimandes, tu dis, moi, quand tu me parles, j'écoute. Mais devant le miroir, Dieu va te montrer que tu n'écoutes pas. Dieu va te montrer que tu fais toujours ce qui est dans ta tête. Tu es quelqu'un d'entêté. Et ça, Dieu doit te le dire. Et le visage d'entêtement que tu présentes, même si tu te maries, va te poser des problèmes dans l'atteinte de ton destin. Alléluia! Est-ce que nous sommes ensemble? Dis avec moi le miroir. Le miroir. Mes amis, le miroir marche. N'ayez pas peur. Rentrez en prière. Dites simplement à Dieu, comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que tu me juges? Laissez Dieu vous juger. Je dis, j'insiste sur Dieu. N'allez pas voir les autres, les hommes. Si Dieu veut vous parler par d'autres personnes, il le fera. Mais ce n'est pas la première des choses à faire. Il faut d'abord poser la question à Dieu. N'allez pas voir les gens pour dire, que penses-tu de moi? Comment me vois-tu? Cette personne-là peut dire juste, comment elle peut se tromper? Si par exemple, elle vous fréquente depuis dernièrement la semaine d'avant, elle vous avait demandé de l'argent pour voyager, et que vous, parce que vous avez commencé à chuter, vous voulez être bon avec cette personne, vous dites que non, si je lui donne l'argent, je ne vais pas l'aider. Parce que je lui donne l'argent, il dépense ça n'importe comment, je vais plutôt l'aider à faire un petit commerce. Donc par bonté, vous lui dites non. Donc depuis la semaine, il vous trouve méchant. Et vous, dans cette affaire de miroir, vous dites, bon, comme lui, il est toujours avec moi, j'allais lui dire, mon ami, juge-moi. Comment me vois-tu? Que vois-tu? On a dit, tu veux la vérité? Donc, si tu vas prendre le miroir de ton conjoint, fais attention, je ne te garantis pas. Tout dépend de comment la semaine précédente, les jours précédents. Si ton mari était hyper content de toi, alors là, il va dire, comment il te voit? Il va te dire, tu es une femme bien, excellente, douce, vraiment, je suis heureux avec toi. Si tu l'as énervé, et tu viens dire, chérie, comment me vois-tu? Tu veux que je dise la vérité? Tu es orgueilleuse même. Bon. Donc, le jugement de l'homme n'est pas objectif. Tout dépend de certaines circonstances. Le miroir de l'homme, il n'est pas certain. Vous devez aller devant le miroir divin. Posez la question à Dieu. Dieu vous parle. Dieu va te parler. Maintenant, comment il va le faire? Ça peut être par quelqu'un dans la rue. Ça peut être dans la prière. Ça peut être dans un songe. Il va te parler. Tu vas savoir. Tes yeux vont s'ouvrir sur ce qui ne va pas. Tes yeux vont s'ouvrir sur ce qui cloche dans ta vie et qui cause le problème. Tes yeux vont s'ouvrir. Amen, amen, amen. Parce que nous sommes ensemble. Donc, troisième chose, le miroir. Et quatrième chose, pour terminer pour aujourd'hui, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Donc, la finalité, c'est la contemplation. Dis avec moi la contemplation. Donc, pour ressembler à ma vraie image, à l'image divine, je dois contempler Christ. Je dois contempler Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, contempler? Contempler signifie regarder avec admiration. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont interprété en disant que contempler, c'est faire des adorations de contemplation. Qui a un chant de contemplation là? Je te contemple. Non, un chant où on dit contempler. Quand je contemple ta sainteté. Chantons. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Amen. Ce chant est puissant. Hein?
Joie de à tes pieds.
Amen. On va s'arrêter là. Alléluia. Très bien. Donc, le chant dit quand je contemple ta sainteté. Souvent, on le chante. Rappelez-vous ce que j'ai dit la dernière fois sur le lieu secret. Il ne s'agit pas de dire le mot et d'être emporté par la mélodie, mais il s'agit d'aller dans le fond des choses. Contempler la sainteté, ça veut dire quoi, concrètement? Quand je contemple ta sainteté, à quel moment tu as contemplé la sainteté? Tu as chanté ça pendant des années. Quelqu'un vient s'asseoir avec toi et dit, dis-moi, sœur. Parce que tu dis, quand tu contemples sa sainteté, ça veut dire que tu as déjà contemplé sa sainteté. Explique-moi, parce que moi, je ne sais pas comment on contemple une sainteté. Comment est-ce qu'on contemple une sainteté? Ah, qui peut me répondre? Donc, depuis là, vous chantez sans savoir. Donc, on adore ce chant-là sur la mélodie, dans l'âme, mais souvent pas dans l'esprit. C'est quoi contempler la sainteté? Comment? Reconnaître qu'on est pécheur, c'est vrai aussi. C'est quoi contempler la sainteté? Comment? Méditer la parole. C'est vrai. Bon, la contemplation, c'est regarder avec admiration. Voilà ce que ça signifie. Ce chant-là traduit un travail que vous devez faire sur vous-même. Dont parle 2 Corinthiens 3, 18. Le chant, il ne dit pas quand vous contemplez le visage, c'est pas quand vous chantez. On n'est pas transformé en chantant les louanges de Dieu. On est transformé en contemplant. Le mot est bien écrit. Et il signifie regarder avec admiration. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs. Je vous ai dit que l'image de Dieu, ce sont ses valeurs. Il y a des valeurs de Dieu que nous ne contemplons pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec sa façon de faire. Quelqu'un me suit? Il y a des personnes, par exemple, qui n'aiment pas la justice de Dieu. Dans quel sens? Ou qui n'aiment pas l'amour et la patience. Voilà, ce qu'on n'aime pas, par exemple, on ne contemple pas. On n'est pas d'accord avec sa patience. Il est trop lent, selon nous. Me suivez? Donc, or, contempler, c'est regarder une chose avec admiration, avec appréciation. C'est la seule chose qui amène cet élément-là à s'imprimer en vous. Si votre cœur rejette la vertu ou le caractère patient de Dieu, vous ne pouvez pas prendre cette image. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire, contempler le Seigneur, c'est arriver dans l'adoration et puis commencer à dire, Dieu va attirer votre esprit sur, je suis un Dieu lent à la colère, patient. Quand il te dit sa patience, et en même temps, tu confrontes toi-même ta propre impatience devant cela. Et tu dis, Seigneur, je veux que les choses aillent plus vite. Mais toi, tu as raison. C'est toi qui es juste. Ah, Dieu, tu es patient. Comment tu fais ça? Ça ne te plaît pas, mais tu contemples sa patience. Tu commences à admirer sa patience. Tu dis que sa patience est ton idéal à toi. Même si dans le fond, ce n'est pas ton idéal. Tu renonces à qui tu es pour pouvoir récupérer la véritable image que tu as perdue. Pourquoi tu es devenu impatient? À cause de tes complications de vie. Et tu vas admirer. Maintenant, on n'admire pas toutes les facettes de Dieu en même temps. Dieu va te conduire. Si tu étais devenu méchant ou trop gentil par les déformations du visage, lorsque tu vas rentrer vers Dieu, il va te faire méditer dans un moment donné des textes peut-être sur son amour, sur sa douceur. Il va te faire remarquer comment il a pleuré quand Lazare est mort. Il te dit, toi, tu pleures plus. Il y a des gens qui pleurent plus. Qui pleurent plus? Mais moi, comme ça, à un moment donné, pour que mes larmes coulent, non, frère, il faut te réveiller un matin. Hein? Tu es devenu dur. Est-ce que vous savez que ce n'est pas normal? Le monde exalte le fait de ne pas pleurer. Dieu pleure. Jésus a pleuré. Parce que pour nous, pleurer, c'est être faible. Or, dans l'enseignement sur la maîtrise, je vous explique que pleurer permet d'engendrer certaines choses. Dieu a créé les larmes pour quelque chose. Bref. Alléluia. Alors tu te dis, tu n'as plus de compassion. Et quand tu vois la façon dont Dieu a été patient envers des pécheurs, tu dis, non Seigneur, que ton jugement vienne. Ton jugement. Et puis tu vois que Dieu le sauve. Le gars, il ne meurt pas. Tu dis, Seigneur, un homme, il est trop mauvais. Il doit mourir. C'est là qu'il vieillit même encore. Et, Seigneur, regarde, tout lui réussit. Il doit échouer. Et puis il prospère. Les affaires marchent. Et c'est là même qu'il sort les grosses voitures. Tu dis, Seigneur, pourquoi tu peux permettre aux méchants de prospérer? Ça veut dire qu'il y a une partie du visage de Dieu que tu n'as pas. Il y a quelque chose que Dieu fait que tu ne contemples pas, que tu n'apprécies pas, que tu n'admires pas. Or, ce qui te confronte là, ce qui te fait le plus mal, c'est certainement là qu'il veut te transformer. Alors, il faut rentrer dans sa présence à nouveau et dire, Seigneur, apprends-moi à comprendre ton caractère. La manière dont tu peux prendre ton temps avec le méchant. Pourquoi tu es comme ça? Ah, j'admire ta patience. Je vais apprendre, je vais être ainsi. Les choses qui vous irritent sont généralement les choses qui ont été... Vous savez, la colère, c'est un dysfonctionnement du caractère. On s'irrite parce qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est généralement les choses qui vous mettent en colère qui sont les points où vous avez pris un autre visage. Vous êtes quelqu'un, par exemple, qui doit appliquer la justice de Dieu, la vraie justice, mais vous l'avez perdue. Vous êtes devenu quelqu'un de dur, de froid. Quand vous allez rentrer dans la contemplation, il doit transformer ce visage-là et vous donner sa justice à lui, sa patience, son amour pour les hommes et recréer le visage que vous avez perdu. Ça, c'est la contemplation qui fait cela. Il faut regarder. Dis, Seigneur, je n'accepte pas ce caractère, mais à cause, parce que c'est toi, Jésus, tu sais que c'est la vérité. Et puis, vous laissez transformer. Et votre cœur sera changé et votre visage va apparaître différemment. Et vous serez un instrument pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on a compris le message? Ça va, on a compris? Si tu as compris, tu vas acclamer le Seigneur. Donc, notre objectif maintenant, c'est de retrouver notre réel visage. Pour réussir son mariage, pour rencontrer la bonne personne ou pour améliorer son conjoint, il faut que soi-même nous retrouvions notre vrai visage, le visage que Dieu nous a donné avant la fondation du monde. Pour retrouver ce visage, je dois entrer dans sa présence, dans le lieu secret. Je dois me découvrir le visage, donc les mauvais trésors, être nu devant Dieu, être honnête. Troisièmement, je dois accepter le miroir de Dieu. Je dois m'humilier pour accepter le miroir de Dieu. Et puis, quatrième chose à faire, je dois le contempler. Je fais ces quatre choses, alors son visage va commencer à s'imprimer en moi. La cinquième chose que j'aborderai dimanche prochain, amen, c'est le profond sommeil. Dis avec moi, profond sommeil. Ça sera très fort par la grâce de Dieu dimanche prochain. Nous allons prier le Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tes enseignements. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aides à grandir. Tu nous aides à progresser. Tu nous transformes à ton image lorsque nous te contemplons. Apprends-nous à te regarder. Apprends-nous à te contempler. Apprends-nous à t'admirer. À toi la gloire, l'exaltation au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus.
Tu es saint, élevé, élevé, élevé. Merci pour votre attention et réécoutez aussi souvent que possible ce message. Car la foi, pour accomplir des exploits, vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu, et la réécoute régulièrement. D'autres enseignements aussi motivants et challengeants du pasteur Mohamed Sanogo, tels que la mentalité des vainqueurs, retrouver son identité, sont à votre entière disposition. Contactez-nous au 22 41 29 80 ou au 02 61 30 63 ou écrivez-nous à l'adresse mail suivante comprod@vasedonneur.org. Nous vous invitons également à visiter notre site www.collectiontransformation.com. Merci et à très bientôt.